Catéchisme de Rome. Petit catéchisme. Troisième partie. Des commandements de Dieu et de l'Église et du péché. Chapitre 1er. Des commandements de Dieu. Premièrement, des commandements de Dieu en général. Combien y a-t-il de commandements de la loi divine? Les commandements de la loi divine sont au nombre de 10. Je suis le Seigneur ton Dieu. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Deuxièmement, tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain. Troisièmement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Quatrièmement, honore ton père et ta mère. Cinquièmement, tu ne tueras pas. Sixièmement, tu ne feras pas d'impureté. Septièmement, tu ne voleras pas. Huitièmement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Neuvièmement, tu ne désireras pas la femme d'autrui. Dixièmement, tu ne désireras pas le bien d'autrui. Qui a donné ces commandements? Dieu lui-même a donné ces commandements dans l'ancienne loi par l'intermédiaire de Moïse, et Jésus-Christ les a confirmés dans la loi nouvelle. Pouvons-nous observer ces commandements? Oui, nous pouvons observer ces commandements avec l'aide de Dieu qui est toujours prêt à donner sa grâce à qui la demande comme il faut. Sommes-nous obligés d'observer les commandements de Dieu? Oui, nous sommes obligés d'observer les commandements de Dieu, et il suffit de pécher gravement contre un seul pour mériter l'enfer. Que contiennent ces commandements? Ces commandements contiennent nos devoirs envers Dieu et envers le prochain. Quels devoirs avons-nous envers Dieu et envers le prochain? Nous avons envers Dieu le devoir de l'aimer de tout notre cœur, par-dessus toute chose, et nous avons envers le prochain le devoir de l'aimer comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous impose en général dans ses commandements? Dans ses commandements, Dieu nous impose de faire le bien et d'éviter le mal. Aussi, chaque commandement contient un précepte et une défense. Deuxièmement, des commandements de Dieu en particulier. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne par les paroles du premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence » ? Par les paroles du premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence » Dieu nous ordonne de reconnaître, d'adorer, d'aimer et de servir lui seul comme notre souverain Seigneur. Que nous défend le premier commandement? Le premier commandement nous défend l'idolâtrie, la superstition, le sacrilège, l'ignorance coupable des vérités de la foi et tout autre péché contre la religion. Pouvons-nous cependant honorer les anges et les saints? Oui, nous pouvons honorer les anges et les saints, et même nous le devons parce qu'ils sont les amis de Dieu et nos intercesseurs auprès de lui. Devons-nous aussi honorer les images de Jésus-Christ et des saints? Oui, sans aucun doute, nous devons aussi honorer les images de Jésus-Christ et des saints, parce que l'honneur que nous rendons à ces images remonte jusqu'à Jésus-Christ même et aux saints qu'elles représentent. Et les reliques des saints, pourquoi les honorons-nous? Nous honorons les reliques des saints parce que leurs corps furent des membres vivants de Jésus-Christ et des temples du Saint-Esprit, et qu'ils doivent ressusciter glorieux pour la vie éternelle. Que nous défend le second commandement « Tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain » Le second commandement « Tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain » nous défend premièrement, de prononcer le nom de Dieu sans respect. Deuxièmement, de faire des serments qui soient faux ou sans nécessité ou illicites en quelque manière. Troisièmement, de blasphémer contre Dieu, contre la très sainte Vierge ou contre les saints. Que nous ordonne le second commandement? Le second commandement nous ordonne d'honorer le saint nom de Dieu et d'accomplir nos vœux et nos serments. Que nous ordonne le troisième commandement? Rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Le troisième commandement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes, nous ordonne d'honorer Dieu par des œuvres de piété chrétienne aux jours de fête consacrés à son culte. Que nous défend le troisième commandement? Le troisième commandement nous défend les œuvres serviles aux jours de fête. Qu'appelle-t-on œuvre servile? On appelle œuvre servile les travaux corporels qui sont propres aux serviteurs, aux artisans et aux ouvriers. N'y a-t-il aucune œuvre servile qui soit permise les jours de fête? Sont permises les œuvres qui sont nécessaires à la vie ou au service de Dieu, et celles qu'on fait pour une cause grave, en demandant, si l'on peut, la permission à son curé. Que nous ordonne le quatrième commandement « Honore ton père et ta mère » Le quatrième commandement « Honore ton père et ta mère » nous ordonne de respecter notre père et notre mère, de leur obéir en tout ce qui n'est pas péché, et de les assister dans leurs besoins spirituels et temporels. Que nous défend le quatrième commandement? Le quatrième commandement nous défend d'offenser nos parents en parole, en acte ou de quelque autre manière que ce soit. Quelles autres personnes le quatrième commandement comprend-il sous le nom de père et de mère? Sous le nom de père et de mère, ce commandement comprend encore tous les supérieurs, tant ecclésiastiques que laïcs, auxquels nous devons donc obéissance et respect. Que nous défend le cinquième commandement? Tu ne tueras pas. Le cinquième commandement, tu ne tueras pas, défend de donner la mort, de battre, de frapper, de faire quelque autre tort que ce soit au prochain dans son corps, soit par soi-même, soit par d'autres, comme aussi de l'offenser par des paroles injurieuses, de lui vouloir du mal et de le scandaliser. Dans ce commandement, Dieu défend encore de se donner la mort à soi-même, ce qu'on appelle le suicide. Pourquoi dans le cinquième commandement, Dieu défend-il de se donner la mort à soi-même ou de se suicider? Dans le cinquième commandement, Dieu défend le suicide parce que l'homme n'est pas le maître de sa vie, pas plus qu'il ne l'est de celle des autres. Aussi l'Église punit-elle le suicide par la privation de la sépulture ecclésiastique. Que nous ordonne le cinquième commandement? Le cinquième commandement nous ordonne de pardonner à nos ennemis et de vouloir du bien à tous. Que nous défend le sixième commandement? Tu ne commettras pas d'impureté. Le sixième commandement, tu ne commettras pas d'impureté, nous défend tout acte, tout regard, toute parole contraire à la chasteté. Que nous ordonne le sixième commandement? Le sixième commandement nous ordonne d'être chaste et modeste dans nos actes, nos regards, notre maintien et nos paroles. Que nous défend le septième commandement? Tu ne voleras pas. Le septième commandement, tu ne voleras pas, nous défend de prendre ou de retenir injustement le bien d'autrui et de causer un dommage au prochain de toute autre manière, par exemple par l'usure, la fraude ou les tromperies semblables. Que nous ordonne le septième commandement? Le septième commandement nous ordonne de restituer le bien d'autrui, de réparer les dommages injustement causés et de payer nos dettes. Que nous défend le huitième commandement? Tu ne porteras pas de faux témoignages. Le huitième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages, nous défend de faire de fausses dépositions devant les tribunaux. Il nous défend aussi la calomnie, la médisance, la flatterie, les jugements ou soupçons téméraires et toute espèce de mensonge. Que nous ordonne le huitième commandement? Le huitième commandement nous ordonne de dire en temps et en lieu la vérité et d'interpréter en bien autant que possible les actions du prochain. Que nous défend le neuvième commandement? Tu ne désireras pas la femme d'autrui. Le neuvième commandement, tu ne désireras pas la femme d'autrui, nous défend les mauvais désirs et tous les péchés intérieurs contre la pureté. Que nous ordonne le neuvième commandement? Le neuvième commandement nous ordonne d'être chastes et purs, même intérieurement. Que nous défend le dixième commandement « Tu ne désireras pas le bien d'autrui ». Le dixième commandement « Tu ne désireras pas le bien d'autrui » nous défend le désir de priver le prochain de son bien et le désir de nous enrichir par des moyens injustes. Que nous ordonne le dixième commandement? Le dixième commandement nous ordonne de nous contenter de l'état où Dieu nous a placés et de souffrir avec patience la pauvreté quand Dieu nous veut dans cet état. Chapitre 2. Des préceptes de l'Église. Combien y a-t-il de préceptes principaux de l'Église? Les préceptes principaux de l'Église, et qui sont les plus communs, sont au nombre de 5. Premièrement, entendre la messe tous les dimanches et autres fêtes d'obligation. Deuxièmement, jeûner pendant le carême, les quatre temps et les vigiles commandés. Ne pas manger de viande les jours défendus. Troisièmement, se confesser au moins une fois l'an et communier à Pâques dans sa paroisse. Quatrièmement, payer les dîmes dues à l'Église d'après les usages. Cinquièmement, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé, c'est-à-dire du premier dimanche de l'Avent à l'Épiphanie et du premier jour de carême jusqu'à l'octave de Pâques. De qui l'Église a-t-elle reçu autorité pour nous imposer des préceptes? C'est de Jésus-Christ lui-même que l'Église a reçu autorité pour nous imposer des préceptes. Aussi, qui désobéit à l'Église, désobéit à Dieu lui-même. Que nous commande le premier précepte de l'Église, entendre la messe tous les dimanches et autres fêtes d'obligation? Le premier précepte de l'Église, entendre la messe tous les dimanches et autres fêtes d'obligation, nous commande d'assister avec dévotion à la Sainte Messe tous les dimanches et les fêtes de précepte. Que nous commande le second précepte de l'Église par les paroles « Jeûner les jours commandés » Le second précepte de l'Église par les paroles « Jeûner les jours commandés » nous ordonne d'observer le jeûne pendant le carême, à certains jours de l'Avent, aux quatre temps et aux vigiles prescrites. Qui est obligé au jeûne? Sont obligés au jeûne les chrétiens qui ont 21 ans accomplis et qui ne sont pas dispensés ou excusés par un empêchement légitime. Que nous défend le second précepte de l'Église par les paroles « Ne pas manger de viande les jours défendus » Le second précepte de l'Église, par les paroles « Ne pas manger de viande les jours défendus », nous défend de manger de la viande le vendredi, le samedi, s'il n'y a pas dispense, au jour de jeûne des quatre temps et de l'Avent, et aux vigiles prescrites. Pourquoi l'Église a-t-elle imposé la loi du jeûne et de l'abstinence? L'Église a imposé la loi du jeûne et de l'abstinence pour nous aider à faire pénitence de nos péchés, à vaincre nos passions et à obtenir les grâces de Dieu. Que nous ordonne l'Église par les paroles du troisième précepte, se confesser au moins une fois l'an? Par les paroles du troisième précepte, se confesser au moins une fois l'an, l'Église oblige tous les chrétiens qui ont atteint l'âge de raison de s'approcher une fois au moins chaque année du sacrement de pénitence. Pourquoi l'Église dit-elle que nous nous confessions au moins une fois l'an? L'Église dit « au moins » pour nous faire connaître son désir que nous nous approchions plus souvent des sacrements. Que nous ordonne l'Église par les autres paroles du troisième précepte « Communier à Pâques chacun dans sa paroisse » Par les autres paroles du troisième précepte « Communier à Pâques chacun dans sa paroisse » l'Église oblige tous les chrétiens qui sont arrivés à l'âge de discrétion de recevoir tous les ans la très sainte Eucharistie dans leur paroisse pendant le temps pascal. Comment observe-t-on le quatrième précepte « Payer les dîmes dues à l'Église. On observe le quatrième précepte, payer les dîmes dues à l'Église, en payant les offrandes ou prestations qui ont été établies pour reconnaître le souverain domaine que Dieu a sur toutes choses et pour pourvoir à l'honnête subsistance de ses ministres. Que nous défend l'Église par le cinquième précepte? Ne pas célébrer de mariage en temps prohibé. Par le cinquième précepte, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé, l'Église nous défend de célébrer des mariages solennels depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'à l'Épiphanie et depuis le premier jour de Carême jusqu'à l'octave de Pâques. Chapitre 3 du péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché est une transgression volontaire de la loi de Dieu. Combien y a-t-il de sortes de péchés? Il y a deux sortes de péchés, le péché originel et le péché actuel. Qu'est-ce que le péché originel? Le péché originel est celui avec lequel nous naissons tous et qui nous vient par une sorte d'hérédité d'Adam, notre premier père. Est-ce qu'aucune créature humaine n'a été préservée du péché originel? La très sainte Vierge seule a été préservée du péché originel par un privilège spécial en vue des mérites de son divin Fils Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on l'appelle Immaculée. Qu'est-ce que le péché actuel? Le péché actuel est celui que nous commettons nous-mêmes quand nous sommes arrivés à l'âge de la raison. Combien y a-t-il de péchés actuels? Il y a deux sortes de péchés actuels, le péché mortel et le péché véniel. Qu'est-ce que le péché mortel? Le péché mortel est une violation de la loi de Dieu en matière grave, faite avec pleine connaissance et avec plein consentement. Pourquoi ce péché est-il appelé mortel? Le péché grave est appelé péché mortel parce qu'il donne la mort à l'âme, c'est-à-dire la prive de la grâce de Dieu qui est sa vie surnaturelle, et rend celui qui le commet digne de l'enfer. Quel autre mal cause à l'âme le péché mortel? Le péché mortel fait perdre les mérites précédemment acquis ou en suspend la valeur. Il rend l'homme incapable de faire des œuvres méritoires pour la vie éternelle et il rend l'homme plus enclin au mal. Celui qui a perdu la grâce de Dieu par le péché mortel, ne peut-il plus la recouvrer? Celui qui a perdu la grâce de Dieu par le péché mortel peut la recouvrer par le sacrement de pénitence ou par un acte de contrition parfaite, joint à la résolution, au moins implicite, de se confesser au plus tôt. Qu'est-ce que le péché véniel? Le péché véniel est celui qui ne nous prive pas de la grâce de Dieu, mais diminue en nous la ferveur de la charité, nous dispose au péché mortel et nous rend dignes de peines temporelles en ce monde et en l'autre. Pourquoi ce péché est-il appelé véniel? Ce péché est appelé véniel parce que, étant une faute légère, il obtient plus facilement le pardon de Dieu. De combien de manières peut-on pécher? On peut pécher de quatre manières, en pensée, en parole, en action et en omission. Comment pêche-t-on en pensée, parole et action? On pêche en pensée, parole et action lorsque, avec un plein consentement, on pense avec plaisir à des choses défendues, on les désire, on en parle ou on les fait. Comment pêche-t-on par omission? On pêche par omission lorsque volontairement on omet des choses commandées. Combien y a-t-il de péchés capitaux? Il y a sept péchés capitaux: l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Pourquoi ces péchés sont-ils appelés capitaux? Ces péchés ou vices sont appelés capitaux parce qu'ils sont la source des autres vices et péchés. Combien y a-t-il de péchés contre le Saint-Esprit? Les péchés contre le Saint-Esprit sont au nombre de six. Désespérer de son salut, prétendre être sauvé sans mérite, combattre la vérité connue, porter envie aux grâces d'autrui, s'obstiner dans le péché, mourir dans l'impénitence finale. Quelle est la pensée qui nous tient le plus éloigné du péché? La pensée qui nous tient le plus éloigné du péché est celle des fins dernières, c'est-à-dire des dernières choses qui nous attendent. Combien y a-t-il de fins dernières? Il y a 4 fins dernières, la mort, le jugement, l'enfer et le paradis.